Bonsoir. Dans une note circulaire publiée ces jours-ci, le Premier ministre interdit aux ministres de recourir aux entreprises publiques pour financer les dépenses de leur cabinet. Ilunga Ilunkamba considère que de telles pratiques sont contraires à la bonne gouvernance et constituent une grave entorse à l'acte d'engagement éthique auquel les membres du gouvernement ont individuellement adhéré. Le chef du gouvernement exige en plus que les gestionnaires des entreprises publiques fassent également rapport sur des dépenses de ce genre qu'ils auraient déjà financées. Quelle analyse faire de cette directive du Premier ministre? C'est la question de ce soir et pour en parler, nous accueillons John Banzalunda, député national élu des Kalemie en province du Tanganyika et cadre de la coalition FCC Cash. John Banza, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Mais également Jean-Baptiste Bomanza, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Dimaté.
Duna Madimba à la présentation. Jean-Baptiste Bomanza, vous êtes membre de l'opposition et cadre de la coalition Lamuka. Et enfin, Joseph Kongolo, analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Aucune entreprise du portefeuille de l'État ni aucun service public ne devra plus financer les dépenses des frais de fonctionnement et d'émission des missions des ministères. C'est une instruction formelle du Premier ministre Sylvestre Ilunga, publiée il y a quelques jours et adressée à tous les membres de son gouvernement. Plus de détails avec Honoré Missenga.
Lapidaire, la correspondance du Premier ministre ne contient que trois phrases. Elle est datée du 9 octobre 2019. Il me revient que certains cabinets ministériels s'adressent aux entreprises du portefeuille de l'État ainsi qu'aux établissements publics sous leur tutelle pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement et ou d'émission, introduit le chef du gouvernement dans cette correspondance. La suite du message est claire et formelle. Sylvestre Ilunga souligne, je cite, « Des telles pratiques sont contraires à la bonne gouvernance et constituent une grave entorse à l'acte d'engagement éthique auquel les membres du gouvernement ont individuellement adhéré. » Fin des citations. Conclusion, le Premier ministre en juin ces derniers, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre, ministre délégué et vice-ministre, d'instruire eux-mêmes les gestionnaires des entreprises publiques de ne plus financer les dépenses précitées, frais de fonctionnement et frais d'émission, ceci relevant du budget de l'État. Sylvestre Ilunga Ilunkamba exige en plus que les gestionnaires des entreprises publiques fassent également rapport sur les dépenses de ce genre qu'ils auraient déjà financées.
John Banzalunda, député national élu de Kalemie en province du Tanganyika, également cadre de la coalition FCC Cash, la directive du Premier ministre est plutôt une très bonne initiative, mais la voyez-vous avoir un effet?
Je commence par saluer notre aîné Bomanza, j'aurais bien voulu qu'il soit à nos côtés dans le studio, ainsi que notre compatriote Joseph Kongolo, qui est à mes côtés, et aux nombreux auditeurs qui nous suivent de partout dans notre République et ailleurs. Je pense que l'effet est à voir dans la continuité de ce qui a été prôné et déclaré par le Premier ministre lorsqu'il est passé au Parlement. Il a dit qu'il est en train de œuvrer pour une nouvelle gouvernance. Lorsque vous prenez les élections de décembre 2018, le message du peuple souverain était clair. Le peuple a voulu qu'il y ait une autre approche dans la gouvernance de la chose publique. À partir de ce moment-là, lorsque le Premier ministre a été investi au Parlement, il a proposé au ministre faisant partie de son équipe, lui qui est le chef du gouvernement, qui est le premier d'entre les ministres, un code de bonne conduite, un code d'éthique pour la gestion de la chose publique. Et à ce niveau-là, c'était le premier pas pour démontrer que il est en train de se départir de certaines habitudes que nous avons vécues il y a quelques années. Et à partir de là, il s'est posé maintenant un problème de lien entre le ministère et, par exemple, une entreprise publique sous tutelle. Quel est le lien entre les deux? Le lien ne peut être qu'administratif, pas, rien de plus. Et à ce niveau-là, lorsqu'il note dans sa correspondance que les frais de fonctionnement ainsi que les frais d'émission sont payés par les entreprises sous tutelle, il y a un problème. Il y a un problème parce que ces deux rubriques, ces deux dépenses sont prises en charge par les budgets de l'État.
Permettez-moi d'intervenir déjà à ce stade, vous allez garder la parole, mais comment expliquez-vous justement qu'une telle pratique, non seulement elle n'est pas née d'hier, mais elle est presque attachée aux pratiques républicaines, à la République démocratique du Congo, depuis même les années d'indépendance?
Lorsque vous interrogez notre législation, aucune disposition ne plaide en faveur de cette pratique. Et donc, si cette pratique remettait en cause l'orthodoxie dans la gestion, nous avons l'obligation d'arrêter. Et ici, nous sommes en train de faire un effort de remettre le fonctionnement normal des institutions, les rapports administratifs entre les institutions. C'est très important. Et l'exemple vient évidemment d'en haut. C'est le Premier ministre lui-même qui montre l'exemple. Lorsqu'il prend les rênes de la primature, il a procédé lui-même par à prêcher par l'exemple. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé, par exemple, que tout le cortège qu'il a, il l'a trouvé là-bas. Donc, c'est de son prédécesseur. Il ne s'est pas donné le luxe de payer de nouveaux véhicules, etc. Donc, nous sommes en train de faire face aux dépenses vitales de notre pays, de la marche de notre pays. Par exemple, la question de l'enseignement, la question de l'amélioration des conditions de vie de nos frères, de nos compatriotes qui ont choisi d'œuvrer sous le drapeau, et bien d'autres. Il y a beaucoup des problèmes beaucoup plus urgents que le confort personnel des animateurs des institutions.
John Banza, puisque c'est une pratique que nous avons indiquée existante depuis presque autant d'années, peut-on, à votre avis, avoir un peu votre lecture? Qu'est-ce qui peut avoir expliqué une telle dérive devenue système depuis tout ce temps, alors que ces rubriques, comme vous le disiez tout à l'heure, sont déjà prises en charge par le gouvernement en principe?
Oui, mais si cette pratique nous tire vers le bas, si cette pratique n'est pas explicable, aucune disposition légale ne plaide en faveur de cette pratique. Convenez avec moi qu'il y a un nouveau Premier ministre. Il y a un nouveau Premier ministre qui veut imprimer sa marque. Et lui, il est un économiste avéré. Et il est en train de suivre la philosophie, la vision du président de la République. Lorsque le président de la République parle de la transparence et de la bonne gouvernance, c'est lui qui doit mettre ça en pratique au quotidien. C'est qui? C'est le Premier ministre, le chef du gouvernement. Alors, il ne peut pas.
Le dénonçant, est-ce que vous pouvez nous signifier si, déjà à ce stade, le Premier ministre a déjà eu de la documentation comme quoi les membres à peine entrés de son gouvernement, qui n'a que quelques mois, sont déjà en train de mettre en pratique cette dérive?
Écoutez, moi je suis quelque peu surpris du débat qui se nourrit autour de cette correspondance. Parce que en principe, il ne devait pas y avoir débat.
Mais est-ce que c'est déjà les ministres en fonction qui se sont retrouvés dans cette faute où ils dénoncent juste une pratique dont il a eu mention comme étant un danger à éviter?
Le Premier ministre, lorsqu'il écrit, il a des éléments. Et lorsqu'il demande aux responsables des entreprises de faire le rapport
de ce qui a déjà été fait
dans ce sens, il y a des éléments. Et donc, c'est une pratique qu'on ne peut pas encourager, qu'on ne peut même pas expliquer, parce que il faut considérer à partir d'aujourd'hui que la responsabilité publique, lorsqu'on vous l'accorde, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un privilège.
Merci John Banza Lunda, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Jean-Baptiste Bomanza, membre de l'opposition et cadre de la coalition La Moka, que le Premier ministre tape du poing sur la table et prévienne que le rançonnage des entreprises publiques et des services publics de l'État doivent cesser au moment où il a pris cette circulaire. Ça vous satisfait, non, de l'opposition, de voir une initiative de protection du détournement des deniers publics ou autre chose?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, moi aussi, je salue les co-débatteurs, John Banza et monsieur Kongolo, qui sont les co-débatteurs de la soirée d'aujourd'hui. Ensuite, vous me permettrez, monsieur le journaliste, comme c'est la première fois que j'interviens aux médias depuis qu'il y a eu crash de l'avion, que je présente mes condoléances aux familles éprouvées et que les âmes des compatriotes qui sont fauchés puissent reposer calmement, bien que ça ait été une mort atroce. Monsieur le journaliste, en ce qui me concerne personnellement, comme acteur et témoin de l'histoire politique de ce pays, je salue la décision du Premier ministre. Et je vais vous rappeler que quand nous avons été au dialogue intercongolais en Afrique du Sud, nous avions dit qu'il fallait que dans notre pays, il y ait un nouvel ordre politique. Un nouvel ordre politique caractérisé par la bonne gouvernance, et la bonne gouvernance dans la rupture. C'est-à-dire en faisant la rupture d'avec les anciennes pratiques qui n'ont fait que s'établir la République. Et lorsque le Premier ministre prend une telle décision, nous ne pouvons que l'encourager. Je crois que comme John Banza y allait dire, quand il demande aux entreprises qui ont eu à subir ce genre de ponctions de lui faire fort, il doit certainement avoir des éléments. En plus, en ce qui me concerne, le Premier ministre actuel, c'est la personne la mieux placée pour comprendre ce genre de pratiques, parce que lui-même a été chef d'une entreprise. Non seulement il a été chef d'une entreprise, mais c'est lui qui a piloté le COPIREP, cette structure-là qui devait procéder à la réforme des entreprises publiques. Et donc, je crois que au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais voudrait voir notre pays être géré dans la rupture. Quand nous sommes allés aux élections, nous sommes allés avec l'idée qu'à l'issue de ces élections-là, que nous puissions changer la façon de gérer notre pays. Et que les institutions de la République répondent à l'orthodoxie de la gestion, de sorte que les antivaleurs que nous avons toujours combattus et qui ont la peau dure ne puissent plus avoir droit de citer dans notre pays. Monsieur le journaliste, ce qui me surprend, c'est quoi? À peine le gouvernement entré en fonction, et il y a certains ministres déjà qui ont commencé à fonctionner au niveau des entreprises publiques. C'est déjà un mauvais présage. C'est déjà un mauvais présage. Et maintenant, la question que je me pose, ceux qui ont déjà fonctionné au niveau des entreprises publiques, quel va être leur sort? Il ne faut pas qu'on s'arrête seulement au niveau de la circulaire du Premier ministre, au rapport éventuel que les entreprises vont faire au Premier ministre. Il faut qu'il y ait des sanctions à l'encontre de ceux qui, à peine entrés en fonction, avaient déjà commencé à fonctionner au niveau des entreprises publiques. Et donc, je crois que le Congo n'a que trop faire, monsieur le journaliste. Vous savez, les entreprises actuelles sont des fois qualifiées de vaches à lait au niveau du comportement des tutelles et des politiques qui supervisent ces entreprises-là. Et ces entreprises sont aussi qualifiées de canards boiteux dans la mesure où elles ont tellement été saignées que si vous interrogez les responsables de ces différentes entreprises, on vous dira que dans ces entreprises-là, les agents traînent derrière eux des dizaines de mois d'arriérés de salaire. Les avantages ne sont plus là. Quand je prends l'exemple de l'ex-Onatra, où les agents et cadres, certains passent la nuit à Kaouka, là où il y avait un centre médical, et les autres ont vu leur famille se disloquer. Mais cet état de choses ne doit pas continuer.
Jean-Baptiste Bomanza, comment expliquez-vous justement que cette pratique, hein, qui est connue de tous, vous de l'opposition, vous avez pris du temps à la dénoncer, et ce n'est que le Premier ministre lui-même qui l'a un peu mise encore sur la table?
Non, non, nous l'avons toujours dénoncé. Nous l'avons toujours dénoncé. Le problème, c'est que, et comme nous n'avions pas encore l'occasion d'être aux affaires pour pratiquer la bonne gouvernance, nous avons toujours dénoncé comme toute opposition républicaine.
Mais Jean-Baptiste Bomanza, on sait très bien que vous avez été à un moment donné assez proche, hein, des autorités qui ont dirigé ce pays, avec notamment le MLC à l'époque de 1 plus 4. En tout cas, le responsable numéro 1 du MLC était quand même un des vice-présidents de ce pays. Et ces pratiques-là existaient.
Non, je ne peux pas nier le fait que j'ai été conseiller politique de Jean-Pierre Bemba dans le cadre de l'Union pour la Nation, non dans le cadre du MLC. Je n'ai jamais été membre du MLC, mais j'ai été son conseiller politique dans le cadre de l'Union pour la Nation, qui était une coalition politique de l'époque à l'issue de la transition 1 plus 4. Et donc, en ce qui concerne la gestion, je ne peux pas me reprocher de quoi que ce soit, parce que je n'ai pas été conseiller politique de Jean-Pierre Bemba comme vice-président de la République. Non, c'est dans le cadre de l'Union pour la Nation.
Merci Jean-Baptiste Bomanza. Nous reviendrons aussi à vous dans un instant. Joseph Kongolo, analyste politique et coordonnateur du Bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Votre regard sur cette décision du Premier ministre.
Bien, merci beaucoup. Je salue John Banza et le vieux Jean-Baptiste Bomanza, que je n'ai pas entendu depuis bien longtemps. Je voudrais dire ceci, que il y a des défis et des enjeux majeurs pour cette gouvernance qui est venue, n'est-ce pas, à l'issue de l'alternance tant souhaitée par la population. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi le débat sur le budget. On est parti de 7 milliards jusqu'à 10 milliards. Tout cela nécessite absolument que le gouvernement, n'est-ce pas,
qui reste encore à être validé
tout à fait
au Parlement.
Évidemment, évidemment. Et le Parlement n'a pas la mission de diminuer le montant qui a été. C'est plutôt pour améliorer, peut-être faire les modifications transversales.
Tout à fait.
Transversales et horizontales. Donc, je crois que le gouvernement devait détailler tout un mécanisme pour pouvoir mobiliser les fonds à l'intérieur, diminuer, n'est-ce pas, le coulage des recettes, qu'on le connaît très bien, pour pouvoir être à mesure de réaliser, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État. Et je crois que c'est une première mesure, tout simplement. Parce que, comme Jean-Baptiste vient de le dire tout à l'heure, le Premier ministre a été un ancien DG, il a été responsable d'un établissement public.
Plusieurs fois ministre.
Il connaît
aussi
toutes les pratiques qui se passent, n'est-ce pas, dans cette matière-là. Et il a réalisé, effectivement, qu'il y a des fonds considérables, n'est-ce pas, qui vont, comme ça, sans une justification, n'est-ce pas, vers les ministres sans aucune justification. Or, ce sont des fonds qu'on peut mobiliser pour être capable, n'est-ce pas, de réaliser la vision du président de la République, réaliser le programme du gouvernement. Voilà. Donc, en prenant cette mesure, je crois qu'il insère dans un processus, n'est-ce pas, de capacitation, n'est-ce pas, de la gestion, tout simplement, de la chose publique. Donc, vous savez, chaque nouvelle gouvernance, chaque bonne gouvernance nécessite absolument un leadership. Et il exerce le leadership au travers ces mesures de restriction, ces mesures, n'est-ce pas, de bonne gouvernance, pour pouvoir mettre tout le monde au pas. Il partage en même temps la vision et montrer, n'est-ce pas, le défi qu'il y a, n'est-ce pas, auprès des membres du gouvernement et en même temps auprès des responsables des entreprises publiques et établissements publics, que l'enjeu que nous avons, ce n'est pas l'enjeu du gouvernement seul, c'est l'enjeu du gouvernement et de l'ensemble de ces branches qui sont chargées de mobiliser les fonds sur les fonds pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, l'intérêt public. Donc, nous pensons très bien que le Premier ministre, il prend la distance et il prend la distance et la hauteur en même temps, c'est ce que Jean-Baptiste appelait la rupture quelque part. Je crois que c'est une première mesure dans le sens de la rupture, dans le sens de l'amélioration, n'est-ce pas, de la gestion de la chose publique, dans le sens de l'amélioration, n'est-ce pas, de la gouvernance.
Alors, Joseph Kongolo, rappelons que le Premier ministre n'est pas à ses premières initiatives, décisions, de propositions, des choses plutôt positives, même si tout à l'heure on va signaler quelques couacs qu'il a déjà eu. Avez-vous l'impression que le Premier ministre a vraiment de la volonté pour rompre définitivement parce que, tous les intervenants l'ont souligné ici, s'il le dit, c'est qu'il a des informations, c'est qu'il en a la certitude. Pourquoi il conseille, parce que dans cette circulaire-là a l'air de conseiller, même si ça a beaucoup de volonté, pourquoi conseille-t-il au lieu de sanctionner directement s'il a déjà trouvé des cas de responsabilité?
Le conseil précède toujours la sanction. Il faut sensibiliser, conscientiser avant de sanctionner.
S'il avait frappé deux ou trois, ça n'aurait pas plutôt été plus efficace?
Ce n'est pas ça son objectif. C'est d'apprendre, n'est-ce pas, à ceux qui entrent dans la gestion aujourd'hui, que voilà, vous devez vous limiter à ce que la loi vous donne de faire.
Est-il possible que dans les prochains jours, qu'il y ait une sanction pour qu'on ne soit pas dans une éternelle, dans un éternel apprentissage ou dans des éternels conseils pour apprendre?
Nous l'espérons parce que, en le disant avec beaucoup de muscles, nous pensons que le Premier ministre est engagé à se mettre, n'est-ce pas, au pas pour pouvoir lui-même montrer l'exemple, n'est-ce pas, de la rupture au niveau de la gestion de la chose publique. Et nous pensons bien que les 10 milliards qu'il faut mobiliser, c'est vrai, à l'intérieur on peut mobiliser 7 milliards, c'est pas une mince affaire, n'est-ce pas, dans une république qui n'a jamais dépassé le cap de 5 milliards de dollars de mobilisation à l'interne. Donc nous pensons que le Premier ministre a pris, il a une catégorie, beaucoup de mesures qu'il doit prendre pour pouvoir restreindre, c'est-à-dire écarter un peu toutes ces antivaleurs dans la gestion de la chose publique de manière à mobiliser suffisamment de fonds et réaliser, n'est-ce pas, le programme du gouvernement.
Alors, Joseph Kongolo, Ilunga Ilunkamba avait annoncé déjà, lorsqu'il a pris ses fonctions, qu'il serait strict en ce qui concerne la sélection de son équipe gouvernementale, même s'il n'en avait pas totalement tout le dernier mot. Il avait édicté 10 règles à respecter, parmi lesquelles il y avait une bonne moralité. Comment expliquer qu'ils prennent aujourd'hui des décisions quand on voit par exemple que au niveau de l'enseignement primaire, il y a un animateur qui semble avoir cause et partie dans la gestion de ce ministère?
Non, écoutez, le ministre actuel, n'est-ce pas, de l'enseignement primaire secondaire, c'est un opérateur social, n'est-ce pas? Et l'impérateur économique et l'impérateur social. Mais ici, il doit faire la différence entre la gestion de la chose publique, qui ne relève pas de lui, mais c'est la position du gouvernement. Parce qu'une décision, quand elle vient du gouvernement, elle doit être délibérée dans le Conseil des ministres. Voyez-vous? Donc ça, c'est la décision du gouvernement qui doit exécuter, et non pas tenter, n'est-ce pas, de modifier les choses dans le sens. Ça, je crois que les juristes sont mieux placés pour parler d'initier d'intérêt, quelque chose comme ça.
Donc, un conflit d'intérêt.
Un conflit d'intérêt, effectivement. Donc, moi, je crois ici que la position du ministre de l'enseignement primaire ou secondaire, c'est la position du gouvernement. Si ce n'était pas la position du gouvernement, je crois que le Premier ministre n'allait pas rester silencieux, il allait repliquer directement et parfois par la sanction. C'est la position du gouvernement, je crois que ça a été concerté et décidé. Malheureusement, ça tombe mal, c'est lui qui annonce, c'est un opérateur social, donc il y a des écoles. Donc je pense que ce n'est pas vraiment ça.
John Banzalunda, vous reprenez la parole, mais pour vous, d'abord, ce commentaire qui nous vient de Kananga.
Mais Jacques Mafouti, depuis Kananga, la simple interdiction ne veut pas dire que le Premier ministre a instauré un système nouveau d'une bonne gouvernance dans ce pays. Mais la bonne chose à faire est celle d'adopter une bonne stratégie de faire le suivi aux différents ministères sans complaisance. Comme ça, les différents ministres auront crainte et aussi convoqué une autre réunion avec les directeurs des entreprises publiques, leur dire de ne pas se laisser gronder par ce dernier pour les allouer les sommes d'une manière illégale.
Voilà, John Banzalunda, réponse.
Ah oui, notre compatriote Meshak, à partir de Kananga, a fait une analyse juste. Il a même proposé des pistes et des solutions. Il parle des mécanismes de suivi. Et là, le Premier ministre est plein dans le suivi. Il est plein dans le suivi, dans l'exécution de la marche de décision de la du gouvernement. Il propose même qu'il y ait une réunion entre le premier ministre et les chefs d'entreprise. Ça, c'est dans la matérialisation de son approche. Donc moi, je ne suis pas membre de son cabinet, mais de mon regard à partir de loin, donc en tant que un élu du peuple, donc je suis en train de voir que le premier ministre est en train de prendre une bonne direction.
Il propose même aux membres de son gouvernement d'écrire eux-mêmes aux entreprises qu'elles ne doivent plus accepter le rançonnage et demande à ces entreprises de lui faire rapport. Tout ça, c'est particulièrement beau, mais quel outil va-t-il utiliser pour imposer cela?
Non, mais il n'a pas à imposer. Il n'a pas à imposer. Tout le monde est obligé, tout membre du gouvernement est obligé de suivre le mécanisme légal de fonctionnement des institutions. Un point à la ligne. Et donc, c'est ici l'occasion de revenir. Lorsque les gens étaient nommés, certains, pour beaucoup qui étaient nommés, pensaient que c'était bien sûr une promotion, mais c'est avant tout une responsabilité. Servir une république de 100 millions d'habitants, servir ces 100 millions de Congolais qui placent leur foi, leur l'avenir de radieux dans ce gouvernement post-alternance, et donc ce n'est pas une mince affaire. Et là, je suis heureux aujourd'hui d'entendre de la part d'un membre de l'opposition, et même de l'opposition radicale, là, qui est la Mouka, souligner la pertinence, la justesse de la démarche du Premier ministre. Mais là où je suis d'accord avec avec l'aîné Bomanza,
oui.
Lorsqu'il dit on doit aller vers la sanction. Mais je peux vous dire aussi que on ne peut pas sanctionner pour faire plaisir aux gens. Non, il y a tout un mécanisme pour arriver à déterminer la responsabilité des uns et des autres.
La crainte est qu'une telle décision, même si elle vient du Premier ministre, ne soit qu'un effet d'annonce, pas de mécanisme strict de contrôle et de sanctions éventuelles.
Lorsque les membres du gouvernement signaient le code d'éthique, les gens pensaient que c'était un simple papier qu'ils signaient. Mais aujourd'hui, lorsque le Premier ministre est en train de rappeler, regardez la démarche, elle est ascendante. Le Premier ministre avait dit qu'il y aurait des évaluations périodiques des membres de son équipe. Ça tout son sens. Donc aujourd'hui, s'il y a des membres du gouvernement qui ne s'alignent pas à la vision du président de la République, parce que je vous rappelle que le Premier ministre est en train de faire la politique du président de la République. Donc tout celui qui n'est pas dans la politique du président de la République qui l'a nommé. Et donc, le Premier ministre, lors des évaluations périodiques, il aura tous les loisirs et tous les éléments concrets et probants pour proposer à ce que les conséquences soient tirées dans chacun des cas.
Pensez-vous que cette fois-ci, c'est la bonne? Parce que le Premier ministre avait aussi prévenu et découragé certaines pratiques déjà à leur prise de fonction. Mais on voit que, malheureusement, même les membres de ce gouvernement, à peine arrivés en fonction, ont trempé dans le rançonnage des entreprises publiques, puisqu'on semble nous faire croire qu'il y a des informations avérées.
Cette fois-ci, c'est la bonne. Pourquoi c'est la bonne? Parce qu'il y a une nouvelle dynamique. La dynamique est imprimée. Je vous rappelle que la dynamique est imprimée par le message aussi clair que celui de décembre 2018. Le peuple a voulu qu'il y ait un changement. Le changement signifie une autre approche. Si ces approches qu'on a utilisées jusqu'avant décembre ont atteint leurs limites, et donc le peuple veut une nouvelle impulsion. Et cette impulsion, j'ai rejoint Monsieur Joseph Kongolo. Il a dit tout à l'heure que le Premier ministre a pris de la distance et de la hauteur. Et il a souligné même que à chaque action de bonne gouvernance ou à l'ensemble des actions de bonne gouvernance, il faut un leadership. Et c'est ce leadership que le Premier ministre est en train d'imprégner. Nous ne pouvons pas nous développer si nous ne sommes pas exigeants envers nous-mêmes. Nous ne pouvons pas mobiliser les ressources si nous ne sommes pas exigeants envers nous-mêmes. Au Parlement, je peux vous rassurer que nous attendons que le budget vienne et vous allez sentir que ce Parlement est différent des parlements antérieurs. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons notre responsabilité, notre part de responsabilité à rendre au peuple souverain qui nous a envoyé là-bas. Et donc, nous ne pouvons pas être complaisants. Nous attendons, et ça, nous sommes en train d'encourager le Premier ministre.
Merci.
À continuer dans ce sens-là et à préserver les intérêts vitaux de la République.
Merci.
Qui sont plus importants que les intérêts des individus animateurs des institutions soient-ils.
Merci. Un membre de l'opposition et cadre de la coalition Lamuka, Jean-Baptiste Bomanza, pour vous aussi, cette réflexion, une fois encore, qui vient de Kananga, de Paul.
Paul Tapemba, Kapemba, depuis Kananga au Kasaï central. C'est une bonne nouvelle pour les Congolais, cette décision. Mais il est vrai de noter que le gouvernement présente le chapelet des bonnes intentions tout en ignorant que l'homme congolais n'a pas encore changé sa mentalité. Nier mettre de guerre et la justice devant pour que cette mesure soit d'application et dire aux ministres verbalement car ils vont ignorer.
Jean-Baptiste Bomanza, votre réaction?
Non, je crois que le compatriote a tout à fait raison. Vous savez que dans ce pays, nous avons connu beaucoup de décisions, beaucoup de mesures qui ont été prises. Nous avons connu des mesures telles que les portes de prison seront grandement ouvertes. Et jusqu'à la fin du régime passé, aucun couloir en cravate n'a franchi les portails de la prison centrale de Makala. Et je crois que si ce sont de bonnes intentions, mais ça va retomber sur l'auteur de cette mesure-là, c'est-à-dire le Premier ministre. Et je crois que le Premier ministre prend une telle décision dans la mesure où lui-même a vécu une expérience malheureuse. Je prends l'exemple des têtes de train qui devaient être achetées pour la SNCC. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est la suite. Quelle est la suite? Et étant donné qu'il a vécu cette expérience-là, c'est pour cette raison qu'il prend une telle mesure, qu'il doit suivre. Donc il faut qu'il suive l'exécution. En plus de cela, le président de la République a dit qu'il faut lutter contre les antivaleurs. Avec sa cohorte de ramifications. Oui, il a pris cette décision-là, mais ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Il faut qu'il descende même au niveau de toutes les 26 provinces, parce qu'il y a la honteuse pratique des opérations retour. L'argent qu'on envoie aux provinces ne va faire qu'une escale technique. Tout rentre ici à Kinshasa. Et je connais par exemple certains immeubles qu'on a baptisés à Kinshasa, ici, merci Équateur. Il faut que ces pratiques-là cessent. Et aussi, je suis heureux d'avoir mon jeune frère John Banza, quand il dit qu'il est heureux que je parle tel que j'ai eu à parler. Mais nous sommes républicains. Et l'opposition, eux, le pouvoir, les soucis à nous tous. C'est le bien-être du peuple souverain.
Jean-Baptiste Bomanza, vous êtes peut-être optimiste parce que pour le moment, il n'y a pas encore d'animateurs de l'opposition actuelle qui ont été responsabilisés dans certaines institutions. Mais si jamais, puisque c'est la République pour tous les Congolais, si jamais un membre de l'AMUKA était chargé de pouvoir gérer une entreprise et qu'il était sollicité, pouvez-vous ici certifier qu'il respecterait cette lutte sans sombrer aussi dans les antivaleurs?
Malheureusement, la MUKA n'est pas dans la coalition qui va se partager le pouvoir à tous les niveaux.
Il n'est pas impossible, hein? Il n'est pas impossible qu'une ouverture soit faite.
Mais c'est en ce moment-là que vous poserez cette question lorsque vous allez juger les faits et gestes dans ce sens-là. Alors, je voulais dire aussi, c'est que j'étais heureux que mon jeune frère John Banza soit là. Il y a aussi au niveau du Parlement, il y a des pratiques et des antivaleurs au niveau du Parlement. Ce qu'on a qualifié toujours de motions et questions orales commerciales et alimentaires, ça doit aussi cesser. Parce que moi, de temps à autre, je prends part au débat au niveau de l'Assemblée nationale. On peut initier une question orale avec débat, avec comme objectif de rançonner celui qu'on appelle à travers cette question orale avec débat. Il faut que toutes ces pratiques-là
puissent cesser aussi
dans notre pays.
Merci.
Vous savez que nous sommes aujourd'hui ridicules à travers le monde. Un pays qualifié de scandale géologique et nous vivons avec moins d'un dollar par jour. Vous vous rendez compte? Donc je crois que le Premier ministre là est face à une rude épreuve. Mais je rappelle ce que j'avais dit à son temps, il faut que des têtes tombent.
Merci Jean-Baptiste Bomanza. Nous allons tout à l'heure interpeller le député qui est avec nous en studio en ce moment, John Banza, pour qu'il nous donne un peu les stratégies que le Parlement va utiliser pour pouvoir participer à aider le Premier ministre dans sa décision. Joseph Kongolo, pour vous, ce commentaire qui nous vient de Kisangani.
Henri Idumbo Kangela depuis Kisangani. Cette opération est régulière surtout pendant la mission des ministres de tutelle dans une entreprise sous sa juridiction. Les directeurs généraux prennent en charge la délégation des ministres par transport, logement, casse-croûte et autres. On ne comprend pas qui dépend de qui. La décision de la primature est louable, surtout qu'elle vient de tomber au bon moment. Je savais que le Premier ministre ne fermera pas l'œil à ce genre de tracasserie financière dont il a été victime quand il fut lui-même directeur général d'une entreprise publique. Je pense aussi que les gouverneurs devraient à leur tour instruire les ministres provinciaux qui embêtent les directeurs provinciaux et les chefs de division dans des camps pareils.
Joseph Kongolo.
En fait, c'est pas une question, c'est une bonne réflexion. C'est-à-dire, il complète la pensée du Premier ministre. Donc, vous comprenez que le Congolais a le souci de voir la gestion, n'est-ce pas, de la République s'améliorer. Voyez-vous. Donc, il a fait une proposition qu'on ne s'arrête pas seulement au niveau du ministre vis-à-vis des entreprises qui relèvent de leur tutelle, mais qu'on aille aussi jusqu'aux ministres provinciaux et qu'ils n'embêtent pas, n'est-ce pas, les chefs de division qui relèvent de leur tutelle. Mmh. Donc, je pense que le Premier ministre devra aussi instruire les gouverneurs, qui sont le représentant de l'exécutif au niveau des provinces, à pouvoir prendre une mesure analogue, n'est-ce pas, auprès, n'est-ce pas, d'autres structures locales.
Est-ce que c'est déjà un peu ça, lorsqu'il a demandé à tous les membres du gouvernement, voilà, de prendre les décisions qui vont dans ce sens?
Oui, ben, je pense qu'elles ont allé plus loin. Pourquoi? Parce que la mobilisation des fonds pour réaliser, n'est-ce pas, le programme du gouvernement ne vient pas seulement de Kinshasa, ni des entreprises publiques. C'est dans toutes les structures imposables, n'est-ce pas, à la fois par la DGI et par d'autres recettes. Donc, je pense bien que le frère a proposé que le Premier ministre prenne une mesure, n'est-ce pas, qui instruise les gouverneurs à pouvoir faire la même chose dans les entités, leurs entités respectives. Et je voudrais ici mettre un point d'orgue pratiquement sur le suivi de cette mesure. Toujours dans mes échanges avec des gens, j'ai trouvé que même le compte-rendu du gouvernement, vous avez constaté depuis qu'on a commencé, il vient toujours en retard. Il vient en retard. La réunion du conseil du gouvernement, c'est le vendredi, mais il faut attendre le samedi pour avoir le conseil. C'est parce que le Premier ministre veut jeter un coup d'œil, voir si il a été fidèle dans ce qui a été fait. Donc, c'est un signe extérieur qui montre bien que quand il prend des mesures, eh ben, il y a aussi le temps pour suivre, n'est-ce pas, ces mesures, pour contrôler ces mesures. Et je crois que ce sont de bons signes qui peuvent déboucher pratiquement sur l'amélioration, n'est-ce pas, de la gestion de la chose publique et forcément aussi la mobilisation de fonds qu'il faut pour pouvoir améliorer le vécu de la population.
Député national élu de Kalemi en province de Tanganyika, John Banza Lunda, nous sommes en train de terminer cette émission. Vous êtes le représentant du Parlement sur cette table. Le Premier ministre a lancé cette balle d'essai dont on imagine qu'il va faire un suivi radical. Mais Que pensez-vous que le Parlement, l'Assemblée nationale peut faire pour l'encourager, pour le soutenir, voire l'appuyer efficacement dans la réussite de cette directive?
D'abord, le Premier ministre n'a pas sollicité notre appui parce que notre appui, tant qu'il va défendre l'intérêt du peuple, est acquis. Et ici, c'est plus qu'un ballon d'essai. Il est dans une logique. Il est dans un processus de changement de mentalité, de changement des pratiques, de changement des perceptions de la gouvernance au niveau des institutions publiques. Ici, il faut l'encourager parce que la mesure qu'il prend, c'est pour protéger les intérêts de la population. Aujourd'hui, nous avons tourné la page des élections et il faut que les Congolais le sachent. Il y a eu un seul d'entre nous qui a été élu comme président de la République pour 5 ans, qui a la destinée des 100 millions de Congolais. C'est celui-là qu'il faut soutenir pendant les 5 années. Si après les 5 années, donc en 2023, nous allons rentrer devant le peuple congolais et nous ferons le bilan. Le Premier ministre agit au quotidien pour matérialiser sa vision, puisque c'est la vision qu'il a présentée devant le peuple congolais qui a requis la majorité. Donc il n'y a pas de position partisane ici, et je suis heureux que mon aîné Bomanza puisse le souligner, que le Congo appartient et aux Congolais de la majorité et ceux qui ne partagent pas les points de vue, donc ceux de l'opposition.
Très brièvement, pour le Parlement,
nous allons jouer notre rôle. Notre rôle, c'est de voter les lois et aussi de contrôler le gouvernement. Lorsque l'intérêt de la nation, l'intérêt des Congolais ne sera pas protégé, nous allons jouer notre rôle et nous allons interpeller tout celui qui sera concerné. Et là, monsieur Bomanza doit se calmer, il n'y aura pas d'émotion qu'il a qualifiée d'alimentaire.
Oui,
donc il y aura une vraie motion pour défendre les intérêts du peuple congolais. Et vous allez juger aussi de la qualité des représentants, des élus que vous avez envoyés au Parlement.
Merci John Banza Lunda. Membre de l'opposition et cadre de la Mouka, Jean-Baptiste Bomanza, êtes-vous rassuré par les engagements ou les assurances que vous donne John Banza Lunda en tant que député national, qu'il pense que l'Assemblée nationale et le Parlement vont naturellement soutenir et aider le Premier ministre et qu'il n'y aura pas de leur côté non plus de motions alimentaires et gastronomiques?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Jusqu'à preuve du contraire, je suis comme Saint Thomas. Je voudrais voir comment cela va se matérialiser sur le terrain. Et en plus de cela, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, là, ça doit descendre jusqu'au niveau de province, de sorte qu'il n'y ait plus des opérations retour, et je profite de cette occasion-là pour lancer un appel au président de la République, qui avait dit à l'issue du séminaire des gouverneurs de province ici à Kinshasa qu'il allait évaluer les gouverneurs tous les 3 mois. L'heure est arrivée maintenant pour qu'ils procèdent à cette évaluation-là.
Merci.
Parce qu'il y a beaucoup de gouverneurs qui ont dérapé, qui ont nommé, qui ont révoqué. Je crois que c'est le moment que l'évaluation intervienne, de sorte que ceux qui ont agi à marge de la loi soient sanctionnés. Parce que le changement vient à travers les sanctions.
Merci.
Lorsque certains seront sanctionnés, les autres vont s'assagir.
Merci Jean-Baptiste Bomanza. En quelques mots, Joseph Kongolo, qu'est-ce qu'on peut retenir ou quelle astuce le Premier ministre doit-il mettre en place pour réussir?
Oui, le Premier ministre a un instrument de taille pour réussir, c'est l'inspection des finances. Donc il faut faire des contrôles à travers des mécanismes qui sont à sa disposition. Et l'Assemblée a aussi un mécanisme spécial là-bas, c'est la Cour des comptes. Donc nous pensons que tous les mécanismes de contrôle sont déjà à leur disposition. Nous voulons vous voir le résultat sur le terrain.
Merci à tous les trois. Jean-Noël Mokondo était à la technique, Guy Maté à la réalisation, supervision Axel Gonjo, Donat Madimba c'est bon à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.